saluer le maréchal Ismaël Trépanier. Wacha
8, 1, 12, 14, 1, 18.
Le Punisher. Chris, the sport, Mizan.
Vous écoutez le www.rocket.com, Ismaël Trépanier, Christian Dallaire, Miss Diamond. Il est 11h06 minutes, il est 17h06 minutes. Bienvenue dans cette émission qui parle fort, enfin, qui a de plus grandes gueules que les grandes gueules elles-mêmes sur RMC, c'est-à-dire Wake Up le Show avec moi, Ismaël Trépanier, votre punisseur et maréchal. Radio Londres, nommé par les Français, ben oui, rocket.com depuis 2005, octobre 2005. Eh bien, bottes et derrière, live@rocket.com pour les courriels ou encore les MSN. Merci d'être là. Et nous avons notre maître, notre maître qui a déjà botté des derrières sur une autre station. Mais maintenant qu'il le fait de temps à autre, le vendredi à 17h, c'est-à-dire Claude Reichmann, bonjour, comment allez-vous?
Oui, bonjour, monsieur Trépanier. Je vais très bien et j'espère que vous allez bien aussi. En tout cas, vous m'avez l'air en pleine forme.
Oui. On travaille pour et ça, voilà. C'est quelque chose qui est un art, ma foi.
Oui.
Je voulais débuter, comme on l'a dit tout à l'heure hors d'onde, Ségolène Royal qui demande, là, justement, là, que le temps des femmes là, est venu, là, monsieur Reichmann. C'est-à-dire de voter pour elle et pour le Parti Socialiste. C'est extraordinaire, hein? Est-ce que c'est rassemblant pour vous?
Je trouve que c'est une assertion un peu stupide, parce que une élection ne se joue pas sur le sexe, elle se joue sur la qualité du candidat ou de la candidate. Le fait qu'elle soit une femme n'est ni un plus ni un moins. Il est vrai que c'est la première fois qu'une femme est candidate avec une chance de gagner. Mais il est vrai aussi que c'est la première fois qu'on a une candidate aussi nulle. Donc, je pense que ce qu'elle rend finalement un très mauvais service à la cause des femmes en la brandissant comme si c'était un étendard.
Mais, monsieur Reichmann, excusez-moi de vous interrompre, mais là, je vous écoute, vous dites que Ségolène Royal, elle est nulle. Bon, je le pense aussi, mais si exemple, les groupes féministes reprennent vos propos. Elle pourrait dire de vous que vous êtes un macho à l'endroit de Ségolène et que vous ne voulez pas lui donner sa chance. Mais qu'est-ce que vous...
Écoutez, pour me faire absoudre par les ligues féministes, je pourrais vous dire, par exemple, que M. Sarkozy est tout aussi nul. Bon, il n'est pas stupide, bien entendu, mais sa campagne qui consiste à aller d'un endroit à un autre, il zigzague. C'est un homme qui ne boit pas de vin ni d'alcool et il zigzague tout le temps. C'est quand même bizarre.
Ah oui, c'est étrange.
C'est un effet. Il faudrait que je signale ça à l'Académie de médecine. C'est peut-être une nouvelle maladie.
Vous savez, nous, on a un juge de la Cour supérieure du Québec qui lui aussi zigzaguait, mais il avait trois fois la limite permise d'alcool dans le sang.
Alors lui, il avait au moins une excuse.
C'est bon, c'est bien lancé. Mais jusqu'à maintenant, je suis sûr, là, moi, quelqu'un, je voterais à coup sûr, M. Reichmann, pour quelqu'un qui sait exactement, quand on lui pose cette simple question, ma foi, on est supposé représenter le pouvoir. On a combien, par exemple, de sous-marins nucléaires?
Oui, c'est un exemple qui a effectivement été illustré par RMC. C'est Jean-Jacques Bourdin qui a posé cette question. Il est même devenu un spécialiste de la question des sous-marins. il est drômois, vous savez, c'est dans le département de la Drôme.
Ok.
Et donc, là, il n'y a pas de mer, donc il n'y a pas de sous-marins là-bas.
Non, tout à fait.
Vous savez, cette histoire de sous-marin, ça me fait penser à une histoire que racontait un chanteur qui a été bien connu pendant dans les années 50-60, c'était Pierre Dudan, qui était d'origine suisse, je crois, et qui racontait des histoires de Ouin-Ouin. Ouin-Ouin était un personnage un peu bêta qui parlait en nasillant, et Ouin-Ouin avait des aventures très, très variées, et un jour, Ouin-Ouin avait voulu s'engager dans la marine suisse.
Je me rappelle de ça.
Il y a une marine suisse, je vous signale. Oui. Ça existe quand même. même s'il n'y a pas de mer en Suisse. Et donc, la première question qu'on lui a posée, c'était « Est-ce que vous savez nager ?» Alors Ouin-Ouin avait répondu « Pourquoi, vous n'avez pas de bateau ?»
C'est bon.
Donc, M. Jean-Jacques Bourdin, que je connais par ailleurs, qui est un homme très sympathique, s'est fait une spécialité de poser cette question, parce que ça a très bien marché avec Ségolène Royal. Ça a été popularisé par une vidéo qu'il a montrée hésitant et rosissant. Et quand Bourdin lui demande alors combien de sous-marins, elle hésite un moment, elle dit hein. En fait, il y en avait 10.
Non, non, Ségolène Royal.
On va engager Ségolène dans la marine suisse avec moins.
Attention, monsieur Reichmann, là, on me glisse à l'oreille que Ségolène Royal se spécialiserait, je dis bien se spécialiserait, dans la soupe poulet et nouilles. Je répète, poulet et nouilles. Voilà.
Alors... Bien, mais c'est une recette, plutôt ça ressemble à une recette chinoise.
Ah oui, tout à fait.
Bah oui, c'est la soupe...
comme son taille.
Oui, c'est le potage pékinois ou potage vietnamien.
comme son tailleur, justement, lorsqu'elle avait débarqué.
Oui.
Qui était de quelle couleur, déjà?
Eh bien, il varie, enfin, il est soit en blanc, soit en rouge, soit même en orange. Il y a une image amusante à la télévision et dans les journaux.
Oui.
Elle est allée voir les ouvriers d'Aulnay. Vous savez, Aulnay, c'est une usine du groupe Peugeot-Citroën, où une partie des ouvriers s'est mise en grève pour obtenir l'augmentation. Et elle est allée les voir dans une jupe plissée orange. On aurait dit vraiment Marie Chantal chez les pauvres. C'était alors d'un ridicule. Alors vous allez peut-être croire que je suis antiféministe, mais pas du tout.
Mais non, mais...
Je serais antiféministe si je la jugeais avec indulgence parce qu'elle est une femme.
Oui.
Je serais tout prêt, moi, à me rallier à une femme de qualité. Si Mme Thatcher était, par exemple, candidate en France, je voterais pour elle sans hésiter.
Ben oui.
Mais pour Ségolène Royal, non, vraiment pas.
Elle rajoute ceci, M. Reichmann, lorsque la cause des femmes progresse, c'est aussi la cause des hommes qui progressent. C'est la cause de la société tout entière qui progresse, a-t-elle affirmé lors du débat justement organisé à Sciences Po Paris, c'est ça?
Là-dessus, je suis d'accord avec elle, parce que je pense qu'effectivement, une société dans laquelle les femmes ont la place qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire la même que les hommes, est une société qui est plus perfectionnée, plus civilisée, une société où les femmes sont à un rang inférieur. C'est si vrai d'ailleurs que c'est une des causes de la supériorité de la civilisation occidentale. N'oublions pas que c'est tout de même la civilisation occidentale, et singulièrement la civilisation française, qui a inventé l'amour courtois au 10e, 11e, 12e siècle. Et donc, ça a contribué énormément à rehausser la cause des femmes. Et ensuite, il y a eu des régressions, mais d'une façon générale, on peut vraiment considérer que c'est notre civilisation, et donc la vôtre, cher monsieur Trépanier, puisque vous, en Amérique, vous êtes des Européens.
Oui.
Eh bien, qui est à l'origine de ce grand progrès qu'a été l'admiration portée aux femmes, le respect et toute une série d'autres comportements qui sont le lot d'une société civilisée.
Je vous répondrai, je respecte les femmes, ça dépend toujours desquelles exactement qu'on me demande.
Bien sûr, c'est comme les hommes, il y a des hommes de toute nature, il y a des femmes de toute nature.
Tout à fait.
Je crois qu'il est ridicule d'attribuer une vertu à quelqu'un uniquement parce qu'il participe d'un sexe ou d'un autre, ça n'a strictement rien à voir.
On nous demande, M. Reichmann, est-ce que vous auriez voté pour Marie-France Garraud?
Pour Marie-France Garraud, plus que pour Ségolène Royal. Je la connais d'ailleurs, et c'est une femme de qualité. Elle est effectivement digne d'avoir de grandes fonctions, qu'elle a eu d'ailleurs un petit peu dans l'ombre. Enfin, elle était quand même une des conseillères principales du président Pompidou, et pendant longtemps de Jacques Chirac, avant de le quitter, ou avant qu'il ne la quitte, parce que sans doute ne souhaitait-il plus obéir à ses mentors. Mais il manque à Marie-France Garraud quand même, je dirais, un esprit constructif. C'est-à-dire, c'est une femme qui est excellente dans la critique, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de punch et beaucoup de convictions. Mais ça dénote, enfin, derrière cela, il y a un certain manque de conception générale de la société, si vous voulez. Et là, elle s'est d'ailleurs présentée à l'élection présidentielle il y a, je crois, une vingtaine d'années, si je me souviens bien.
Oui.
Peut-être un peu moins. Et donc, elle a fait un score qui n'a pas été très important, mais je pense que le problème posé par Marie-France Garraud est celui qui est posé par pas mal de gens qui sont d'excellents opposants, mais qui ont du mal à devenir des solutions majoritaires. C'est le problème, et pour gagner une élection présidentielle, il faut d'abord avoir la majorité, bon ça va de soi, mais pour avoir la majorité, il faut avoir quand même une capacité de rassemblement qui ne peut pas se gagner uniquement par une critique si acérée soit-elle.
Monsieur Reichmann, j'ai ici quelque chose de, qui m'a fait sourire ce matin au niveau de nos journaux. C'est un ancien combattant, qui est président de la section de l'association des anciens combattants du 22e régiment. Il dit ceci, il commence par ceci, M. Reichmann. Inadmissible. C'est vraiment dégueulasse. C'est épouvantable. Et je répète, inadmissible. Elfgen Renault dit qu'il ne mange pas ses mots pour dénoncer les panneaux farcis de fautes de français au monument de commémoration du Canada à Vimy, en France. Après avoir pris connaissance de la situation, le gouvernement Harper a ordonné hier le retrait des panneaux. Avez-vous entendu parler de cette histoire? Des fautes de français chez les Français, c'est spécial.
Vous me l'apprenez, mais en revanche, vous ne me surprenez pas, car la faute de français est devenue pratiquement inévitable aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre un texte quelconque sans qu'il soit truffé de fautes d'orthographe.
Oui.
C'est bien simple. La France est un pays dont l'éducation nationale n'a pas cessé de se dégrader. Et actuellement, vous avez énormément de jeunes qui entrent en sixième sans savoir lire et écrire. Et vous avez souvent une orthographe extrêmement défaillante. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on retrouve tout cela dans des panneaux ou ailleurs. Donc, c'est effectivement scandaleux. Et je pense d'ailleurs que, je vais même vous dire, sans aller chercher très loin, il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Michel Apathy.
Oui.
Et qui interviewe le matin sur RTL. Il fait une émission qui dure une dizaine de minutes le matin à 8h-10 sur RTL. Bon, c'est un des journalistes les plus connus. Et il tient un blog. Et son blog, qu'il doit rédiger assez rapidement, mais immédiatement après que son invité est parti, est truffé de fautes. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas analphabète, loin de là, et son blog est même intéressant. Mais il est quand même intéressant, là, et curieux, de voir qu'un journaliste réputé laisse sur un blog toute une série de fautes qui sont, bon, peut-être il y a une partie de fautes qui tiennent à la rapidité avec laquelle il est obligé d'écrire cela, mais il y a aussi, il n'y a pas, si vous voulez, une orthographe totalement maîtrisée, totalement automatique. Et ça, c'est un signe qui était quand même assez intéressant, parce que c'est inquiétant. Je suis d'ailleurs persuadé que si dans les journaux vous n'aviez pas de correcteur, vous auriez des fautes pratiquement à
épouvantable. Et moi le premier, M. Reichmann, je suis loin d'être extraordinaire au niveau... lorsque j'écris, je fais des fautes, non pas d'orthographe, mais bien de grammaire, bien sûr.
C'est un petit peu plus ennuyeux, mais enfin les deux sont ennuyeux. La maîtrise de la langue est un élément absolument essentiel de la maîtrise tout court.
On se le cachera pas.
Oui, on raconte une histoire c'est une blague, mais en réalité, c'est assez symptomatique. Un professeur se présente pour la première fois à sa classe. Et il dit, c'est moi que je suis le professeur de français qu'on vous a causé.
d'accord.
Voilà, donc, à partir du moment où le professeur ne parle pas le français, ou ne le parle pas correctement, il faut s'attendre au pire résultat.
Mais regardez, ce qui est spécial, c'est vraiment là bizarre. Et ils prennent, de votre côté, bien sûr, ils ont pris des anglophones qui ne parlent pas très bien le français pour faire ces traductions.
Oui.
C'est spécial, non? De votre côté, pour le... Oui?
Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais enfin, ce qui est certain, c'est que on a intérêt pour toute manifestation publique...
Il me semblait que les Français avaient un peu plus de rigueur à l'endroit de la langue, et ça me fait rire de savoir et d'apprendre que ça a été donné, un travail qui a été remis entre les mains d'anglophones qui parlent un à peu près...
Ben oui, mais c'est que ce qu'on appelle les circuits décisionnels, d'une manière un peu pompeuse, fonctionnent d'une manière très bizarre en France. Vous savez, on est dans une société qui, pour employer un terme un peu commun, se déglingue. Et donc elle se déglingue partout. Il n'y a pas que dans les sphères politiques ou dans les sphères dans le milieu des affaires qui sont polluées souvent par la corruption. Il n'y a pas que là que les choses se déglinguent. Elles se déglinguent partout, à tous les niveaux de la société. C'est parce qu'il n'y a pas une rigueur morale, il n'y a pas non plus le respect des obligations que chacun a envers les autres et envers soi-même, Et donc tout ça, ça contribue à un climat moral qui est assez désastreux et qui ne, je crois, qui ne s'arrangera que dans la mesure où, au sommet de l'État, on verra un exemple. Vous savez, la vertu de l'exemple, c'est absolument capital. Il y a un écrivain, un penseur bien connu, Bertrand Jouvenel, qui a longuement disserté sur ces sujets.
Oui.
Et je suis entièrement d'accord avec sa thèse. Je crois que la vertu de l'exemple est probablement la vertu la plus importante. D'ailleurs, elle commence avec l'enfance. Si vous donnez un bon exemple à vos enfants, il y a les meilleures chances pour qu'ils se conduisent convenablement par la suite. Si en revanche, ils voient un exemple désastreux et ils n'ont aucune raison ensuite d'essayer de s'améliorer, d'une part parce qu'ils n'auront pas eu cet exemple et d'autre part parce que, en vertu d'un sentiment psychique bien connu, ils auront le sentiment de trahir leurs parents en s'élevant au-dessus d'eux. Enfin bref, c'est assez complexe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner l'exemple et que donner l'exemple, eh bien, ça consiste à se conduire convenablement dans toutes les circonstances de la vie. C'est aussi simple que ça.
Monsieur Reichmann, hier, j'ai abordé ce sujet concernant Begag qui a décidé de quitter le ministre ou, je sais pas, le ministère, le pseudo-ministère de l'égalité. Pouvez-vous me répéter exactement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faisait auprès de Minick de Villepin? C'est l'égalité de quoi?
Il était ministre, je crois, de l'égalité des chances, si je ne me trompe pas.
Est-ce que je peux vous dire, M. Reichmann, que c'est ridicule?
Oui, bah écoutez, c'est ridicule surtout de donner à des ministères de telles appellations. Il y en a bien d'autres, hein, parce que...
l'égalité des chances.
Oui, alors l'égalité des chances, oui. Alors en fait, c'était tout simplement... C'est un homme qui est issu de l'immigration, qui est d'origine algérienne, je crois, et qui... Enfin, qui a réussi à faire des études. Il a été élevé dans un bidonville de la région lyonnaise, mais il a quand même réussi à faire de bonnes études. Et ensuite, il a été promu donc dans ce gouvernement pour essayer de montrer au bon peuple que même les gens d'origine arabe avaient toutes leurs chances. Et alors, il avait un mot assez amusant. Il dit « Je ne suis pas l'arabe qui cache la forêt
». C'est bon.
Mais ce qui s'est passé en réalité, ça n'est pas... pas tout à fait ce qu'on nous raconte. Monsieur Begag, en fait, a écrit un livre totalement hostile à Monsieur Sarkozy, et si hostile même que ça en a gêné le président de la République et Monsieur Chirac et Monsieur de Villepin, qui pourtant ne portent pas Monsieur Sarkozy dans leur cœur, mais ça pouvait les mettre dans une position assez gênante à partir du moment où Chirac a apporté son appui officiel, même s'il est loin d'être enthousiaste à Sarkozy, et où de Villepin a fait à peu près de même. Donc ils ont demander à M. Begag de ne pas faire paraître son livre. Ils en ont eu connaissance il y a très peu de temps. Le livre était déjà imprimé, mais en outre, M. Begag et l'éditeur avaient donné la priorité des bonnes feuilles à l'hebdomadaire Marianne, et donc qui était déjà imprimé. Donc finalement, comme on ne pouvait pas arrêter le livre ni arrêter l'hebdomadaire, alors on a décidé non pas d'arrêter M. Begag, mais de le faire partir. Il a été obligé de démissionner, voilà. Il a expliqué ça en disant qu'il retrouvait sa liberté de parole.
Ah, c'est ça qui me faisait rire. Ben, vous voyez, voilà. Il ne faut pas prendre non plus le simple citoyen, c'est-à-dire moi ou n'importe quel autre auditeur de Rocket.com ou de Radio-Con. Parce que j'ai, la première chose qui m'est venue en tête, j'ai dit, bon, ben parfait, il s'est fait montrer la porte. C'est aussi simple que ça.
Ben oui, il s'est fait montrer la porte, mais pour des raisons qui tiennent à ce qu'il a exprimé.
Voilà.
Qui risquait de gêner beaucoup Chirac et Villepin face à Sarkozy, qui n'a pas besoin de ça, parce que vous savez qu'hier il s'est rendu à Lyon, et lui qui fait le matamor un peu partout n'a pas pu faire sa réunion dans le quartier de la Croix-Rousse, parce qu'il y avait une centaine ou 200 manifestants qui criaient Karcher, Karcher, racaille, racaille, et donc comme il ne voulait pas qu'au journal de 20h apparaissent des images montrant Sarkozy en butte à une foule hostile, eh bien, il a fait dire que son avion avait du retard et qu'il ne pouvait pas venir. Ce qui n'était pas vrai.
C'est un bon mensonge ici.
Ah oui, oui, c'est
oh.
Un mensonge de plus.
Ah,
oui,
oui, c'est répandu, ça, je trouve, chez les politiciens du Reichmann. Oh, ben,
le mensonge est leur art habituel de s'exprimer.
Ah, d'accord, je croyais...
Quand ils disent la vérité, c'est une erreur.
je suis tellement naïf, M. Reichmann.
Ça me rappelle, dans un autre ordre d'idée,
oui.
Le mot de M. Greenspan,
Oui. Hey, bon sang, monsieur. Monsieur Reichmann.
Je m'excuse. Réserve fédérale.
Oui.
Il disait un jour à un journaliste, lui a dit, si je vous ai bien compris, monsieur Greenspan. Et Greenspan lui dit, si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé.
Et monsieur Reichmann, c'est fou. Je pense qu'on est connectés, là, vous et moi, parce que j'ai réfléchi à la même chose que vous venez de me dire là, concernant Alan Greenspan. Et c'était très juteux comme phrase de ce monsieur, franchement. Et c'est vrai, pareil, le système de la bourse est autant du côté politique que ceci. C'est, ils ont un seul but, c'est de ne pas se faire saisir tout simplement.
Voilà, c'est exactement.
C'est
d'ailleurs, il y avait un film qui était tout à fait amusant, et plus qu'amusant même, très intéressant, et qui illustrait bien cela. C'est le film qui s'appelle en anglais Being There, en français, ça s'appelle, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et donc qui montrait un personnage qui avait vécu dans une maison un peu simplée, si vous voulez, et qui sortait pour la première fois de cette maison après le décès de la personne qui l'hébergeait. Et donc, ce simplet était interrogé, enfin, devenait, après des péripéties que je vous épargne, devenait un personnage très important, un conseiller du président des États-Unis, et un jour, interviewé à la télévision sur l'évolution des affaires, il avait dit « Le printemps succédera à l'hiver. » Et alors, les boursiers en avaient déduit qu'il allait y avoir une reprise extraordinaire. Alors que lui ne parlait réellement que du jardin, puisqu'il était jardinier, il s'appelait Chen du jardin.
C'est très magnifique. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire avec ma mère et son vélo?
Oui, alors j'en ai entendu parler. Effectivement, elle a fait le bonheur des blogs. Effectivement, il est. Alors lui, comme menteur, il est arrivé là.
Oh my God.
Il est arrivé en taxi ou en voiture avec chauffeur, je ne me souviens plus. Et il a prétendu qu'il était arrivé à vélo, quoi. Et donc, mais malheureusement pour lui, tout le monde l'avait vu arriver en voiture.
C'était
non, mais ces types sont vraiment invraisemblables, j'assure. Franchement, nous n'arriverions pas à nous supporter si nous étions menteurs.
Mais c'est incroyable.
C'est vraiment ridicule.
Incroyable.
Et eux, ça ne les dérange absolument pas. Ils racontent n'importe quoi. Et ensuite, ils continuent. Ils sont d'un cynisme total.
Pour revenir à...
même dans cet ordre d'idée, c'est pour ça que je vous dis que c'est une situation absolument extraordinaire. Dans une manifestation de lycéens ou de jeunes contre les... Je crois que c'était contre le CPE, le contrat première embauche. Des journalistes avaient entendu et même enregistré M. Jack Lang s'adressant, me semble-t-il, à M. Julien Drey et lui disant ceci. « Bon, allez, on va foutre la merde, mais après, qu'est-ce qu'on fait ?» Et est-ce que vous croyez que ça a été reproché à Jack Lang? Est-ce que vous croyez qu'on a demandé sa démission? Est-ce que vous croyez que
non.
Ce type a été ridiculisé, conspué, tout ce que vous voulez? Non, pas du tout.
Non,
il continue. Et il continue de parader et les journalistes continuent de l'interroger respectueusement.
Incroyable.
C'est absolument invraisemblable.
Invraisemblable, vous l'avez dit. Le mot est juste ici. Là, c'est invraisemblable, M. Reichmann. Pour revenir sur Begag, on nous demande, selon vous, là, est-ce que... il a la double nationalité. Est-ce que c'est pas choquant pour un ministre? Parce que c'est bien d'origine algérienne, c'est ça?
Oui, c'est cela. Oui. Okay. Je pense qu'il a la double nationalité. Enfin,
oui, la double nationalité, c'est pour
là. De toute façon, moi, je suis hostile à la double nationalité. J'estime que on peut la comprendre dans certains cas, bien sûr, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est un peu difficile à admettre. Et en particulier quand il y a des relations conflictuelles. Parce que là, ça devient ingérable pour... Et donc...
C'est bordélique, oui.
Moi, je suis pas favorable à l'idée de double nationalité. Je pense que la nationalité est quelque chose qui n'est pas partageable. Donc, quand on est français, ou quand on est américain, ou algérien, eh bien, on est ce qu'on est, et on le reste. Et si on veut ne plus l'être, eh bien, on essaye d'adopter une autre nationalité. Mais... La double nationalité, c'est quelque chose qui... Ça me fait un peu penser aux agents doubles, si vous voulez. Même si ces personnes à la double nationalité ne font pas activité d'espionnage, mais
voilà.
C'est un petit peu bizarre. Mais vous savez, ça remonte peut-être aussi à l'Antiquité. Il y avait à Rome ces fameuses médailles de Janus qui présentait un double visage sur le revers et sur l'avers de la médaille. C'était le Janus bifrance, le Janus de visage. Et c'est probablement, le Janus bifrance est probablement une des composantes de la personnalité humaine. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, nous avons tous plusieurs visages. Il n'y a qu'à voir la tête qu'on fait quand on est content et quand on ne l'est pas.
Parce que vous savez, nous, un animateur très controversé nommé André Arthur a déjà un peu fait le même, tenu le même discours, c'est-à-dire concernant la double nationalité, concernant les gens, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a Israël, la Syrie, le Hezbollah, Harper, notre premier ministre, le gouvernement Harper, avait ramené des gens de là-bas, plus de 5000 individus. Mais André Arthur, lui, ce qu'il avait dit, c'est le problème avec la double nationalité. Ils viennent faire du ski alpin l'hiver, ils viennent se faire soigner ici et ils repartent chez eux par la suite.
Mais ça a un côté choquant parce que la double nationalité, peut être parfois le fruit d'une double civilisation. Mais quand vous pensez que ces gens qui ont la double nationalité l'ont souvent très facilement, alors qu'un auteur à succès comme Jonathan Little, qui a écrit un livre qui est actuellement un des best-sellers mondiaux, souhaitait être français. Je me demande vraiment pourquoi, parce qu'il avait certainement plus d'intérêt à rester américain ou espagnol, puisqu'il vit une partie de l'année, je crois, en Espagne. Et il a eu toutes les peines du monde à devenir français. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Vous avez des gens qui, sans aucune difficulté, obtiennent une nationalité, et d'autres qui sont en plus des acquis intéressants pour une société, puisque ce sont soit des grands auteurs, soit des scientifiques, etc., ont toutes les peines du monde à se faire reconnaître la nationalité qu'ils souhaitent obtenir. Mais il y a eu même des affaires qui ont défrayé la chronique. L'écrivain Cécile Saint-Laurent, de son vrai nom Jacques Laurent, avait, je crois, perdu des papiers, ou je ne me souviens plus exactement ce qui lui était arrivé. Il a mis des mois, presque des années, à essayer d'obtenir la preuve qu'il était bien français, alors qu'il était français depuis des générations.
C'est bon.
Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui arrivent en France, qui font un enfant, l'enfant devient immédiatement français, et les parents ont vocation à le devenir également par le fait qu'ils ont un enfant français. Donc, vous savez, c'est une société qui en est arrivée là est une société qui ne marche plus droit, elle marche sur la tête. Parce que, ça n'est pas cohérent, quoi, si vous voulez. Il y a trop de difficultés d'un côté et pas assez de l'autre. Et donc, j'ai l'impression qu'il faudra attendre que quelqu'un de bon sens arrive à la tête du pays et ait assez d'autorité pour dire « ça ne va pas, il faut que nous fassions autrement et essayons de mettre un petit peu d'ordre dans nos affaires ».
On a parlé ce matin de sujet quand même assez... je considère que c'est controversé. Cette chanteuse de hip-hop ou rap pour certains... nommé Diam, qui fait le titre de la chanson. Le titre de la chanson, c'est Ma France à moi.
J'en ai été très choqué moi-même.
J'ai été choqué.
Je ne l'ai jamais entendu, même parce que je ne m'intéresse pas beaucoup à ce type d'art. J'aime beaucoup la chanson, mais celle-là ne me plaît pas.
Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un art, M. Reichmann, dénigrer?
Il le prétend, en tout cas. Donc, je n'irai peut-être pas jusque-là sans un examen préalable. quoi qu'il en soit, le caractère haineux de cette chanson est intolérable.
Exact.
D'ailleurs, ses meilleurs amis, je crois, c'est le groupe Nique ta mère, des gens comme ça qui passent leur temps à vouloir niquer les Français.
Ah, c'est de l'art, c'est de l'art. C'est
et donc, tout ceci est intolérable. C'est une jeune femme d'origine grecque, crétoise, je crois, ou chypriote, je ne me souviens plus.
Qui est musulmane, oui.
Non, elle n'est pas musulmane.
Diam, oui, on nous a confirmé hier qu'elle était musulmane.
Ah bon, ça m'étonne parce que je crois qu'elle est d'origine grecque.
Elle se serait convertie.
Elle
se serait convertie, Monsieur Reichmann.
Ah, c'est possible.
C'est ce qu'on nous a confirmé par la suite.
Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que ma France à moi, je veux dire, c'est quand même faire preuve d'une arrogance assez extraordinaire parce que voilà une jeune femme de 26 ans qui n'a jamais brillé par quoi que ce soit de particulier au profit de la France, qui, parce qu'elle a du succès auprès de certains jeunes, d'une jeunesse hostile, pour des raisons qui peuvent s'expliquer par ailleurs, c'est un autre problème, et qui, du fait de ce succès, se sert de ce succès pour en faire une tribune où elle insulte pratiquement une partie de la France. Donc c'est absolument intolérable, et elle n'a vraiment aucune qualité pour le faire. D'ailleurs, je ne vois pas qui aurait la qualité de le faire, mais c'est un côté extrêmement choquant. Et je vous avoue que quand j'ai lu cela, je l'ai lu dans un article du Monde il y a 2-3 jours.
Oui.
Je savais qu'elle existait, puisque ici et là, on voit des photos dans les journaux avec beaucoup de complaisance. Et donc, elle a effectivement un comportement qui me paraît tout à fait condamnable et choquant. Et ça, d'ailleurs, ça m'a amusé parce que
oui.
Diams, vous savez, c'est... bon, les Diams, c'est les diamants, certainement. Et ça rappelle évidemment le président Giscard d'Estaing qui est parti sur une affaire de diamants qu'il avait reçu de Bocassa. Et l'humoriste Thierry Luron, aujourd'hui décédé, avait fait une imitation de Giscard s'adressant aux Français et leur disant « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
!» C'est sûr.
Et donc là, cette diams-là, à mon avis, ne devrait pas prospérer beaucoup parce
non.
que le fait d'être haineux à ce point... D'ailleurs, j'ai vu une photo dans le même journal, d'ailleurs, qui diffusait un petit peu son histoire... Elle a la bouche ouverte et l'air haineux. Les gens haineux finissent en général assez mal.
Hein. Oui, c'est très mal. Et je pourrais vous poser...
ça
se peut aussi, ou quelques mouches de plus. Dans, dans le fond, là, M. Reichmann, qui a payé, selon vous, Diam pour qu'elle mentionne que Sarkozy, qu'elle mentionne Sarkozy là, dans ses textes, je ne sais pas.
Oh, je ne pense pas qu'on l'ait payé pour ça. Je pense qu'elle.
Ah, vous êtes sûr? Moi, c'est drôle. Je ne sais pas. J'ai comme une impression que parce que là, on se le cachera pas, c'est la course à la présidentielle.
Oui.
Vrai ou pas vrai?
Non, là, je pense. Oui, ça fait partie de la course à la présidentielle, mais je ne pense pas qu'il y ait des officines politiques derrière ça. Il y a des groupes
Mais qu'est-ce que vous en savez, M. Reichmann?
Ben, moi, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai pas de preuves.
On pourrait quand même se poser la question, vous n'êtes pas d'accord?
Oui, justement, on peut se poser la question, mais je vous réponds uniquement en faisant des hypothèses.
Oui.
Certains.
Exact.
Et donc, il y a aujourd'hui, dans Le Monde qui est paru cet après-midi à Paris,
oui.
justement, un article intitulé « Enquête sur la galaxie des anti-Sarkozy ». Et il y a effectivement, parmi les gens qui sont hostiles à Sarkozy, des groupes, c'est... différents comme des gens, des rappeurs précisément, ils disent les jeunes rappeurs de Sniper, Diams, les t-shirts de Tandem, et donc Sarkozy avait écrit le journal, avait porté plainte contre la France, un titre du groupe Sniper, en jugeant insultante pour les policiers. Depuis, la planète rap s'est mobilisée contre lui, Diams chante « Ma France à moi, c'est pas la leur », celle qui vote extrême, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, voilà le... Et elle dit dans une autre chanson qui s'appelle La Boulette, il y a comme un goût de démago dans la bouche de Sarko.
Oui.
Donc vous voyez, ces groupes issus de l'immigration ont choisi Sarkozy comme adversaire, lequel Sarkozy d'ailleurs a fait ce qu'il fallait pour qu'il en soit ainsi, puisque l'expression Karcher et Racaille étaient évidemment destinées à le mettre dans la posture de celui qui s'oppose à cette dérive des banlieues, etc. Et donc, aujourd'hui, il récolte le fruit de son attitude. Et c'est extrêmement grave pour lui, parce que c'est même grave pour la France, parce que figurez-vous que dans les cercles informés, et même dans les autres, circule actuellement une idée qui dit que si Sarkozy est élu, les émeutes commenceront immédiatement dans la nuit qui suivra son élection. Alors, personne ne sait évidemment rien de tout cela. Mais le simple fait qu'une hypothèse pareille circule et trouve du crédit est un élément extrêmement négatif pour un candidat. C'est la raison pour laquelle Bayrou se présente, lui, davantage en rassembleur, en homme tranquille. Il essaye de jouer la carte de la France tranquille, quoi.
Dans une course, où est-ce qu'il y a Sarkozy, où est-ce qu'il y a Ségolène Royal, où il y a aussi d'autres partis qui essaient d'émerger, de peut-être avoir quelques pourcentages de plus, tous les coups sont permis, parce que si je fais une comparaison avec les élections qu'on vient de vivre, vous ne pouvez pas vous imaginer, là, les taupes, hein, une taupe, j'espère que vous m'entendez bien quand je dis le mot taupe, ces taupes qui se font passer pour monsieur, madame, tout le monde, de simples citoyens, et quand on cherche le moindrement, on découvre, ah, tiens donc, un tel individu a telle allégeance, ah, tiens donc, oh, c'est un journaliste, vous savez, on en a attrapé plusieurs durant cette course aux élections de notre côté, et quand je regarde votre politique, monsieur Reichmann, j'ai l'impression que Diane, c'est un exemple parmi tant d'autres, J'ai un sentiment qu'il faut suspecter tous ceux qui mentionnent ben, Le Pen, c'est un dangereux, ou encore Sarko, c'est un dangereux, ou encore Sego, c'est un dangereux. Tous ceux, et des personnalités quand même connues, sont à être mis dans le dossier suspect, façon de parler.
Oui, mais là, ce que vous dites est juste, mais d'un autre côté, oui. On peut s'interroger sur le rapport qu'il y a avec la campagne présidentielle, parce que ça fait très longtemps que ça dure, ces
oui.
histoires-là. Vous savez, ça n'a
c'est
pas
vrai.
Commencé avec la campagne présidentielle.
Mais non, je
Il
sais.
Y a déjà une époque, un préfet, qui était M. Marchiani, qui était préfet du Var, avait déposé plainte contre le groupe Nique ta mère, je crois, pour insultes, menaces, etc. Donc ça avait donné lieu à des procès. Bon, c'est une affaire empoisonnée depuis longtemps, parce que il y a en France une partie de la jeunesse issue de l'immigration qui est en rupture. Alors, on peut avoir évidemment beaucoup de positions sur ce sujet-là, mais ce qui est certain, c'est qu'une partie, je dis bien une partie seulement, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui essayent de s'intégrer et parfois même de s'assimiler, mais une partie est totalement irréductible, sans parler de ceux qui se sont lancés dans la délinquance et qui pourrissent la vie de bon nombre de quartiers. Il y en a un millier de quartiers en France où la vie n'est plus possible, la police ne rentre pas, et c'est des bandes de malfaiteurs qui règnent. Donc, cette bataille, cette guerre civile, littéralement, dure depuis des années et des années, et elle ne s'arrêtera pas sans qu'un peu de... Enfin, beaucoup même d'ordre ne soit mis dans tout cela, parce que, quand je dis de l'ordre, il ne s'agit pas simplement d'être musclé et de faire des moulinets, il s'agit de créer des conditions dans lesquelles une jeunesse, dont on peut penser ce qu'on veut, mais... qui, dans les conditions actuelles, n'a pas le moindre avenir, pas plus d'ailleurs que les Français d'origine française. La France est dans une situation catastrophique.
Oui.
Alors, il ne faut pas s'étonner que ça se traduise par toutes sortes de manifestations et toutes sortes d'hostilités. Donc, actuellement, on est vraiment dans une situation qui peut dégénérer à tout moment, et les événements de la gare du Nord
l'ont
complètement démontré. Alors, là aussi, certains ont dit... il peut y avoir eu manipulation, bon, on ne peut jamais l'exclure, mais malheureusement pour cette thèse, ça peut démarrer à tout moment sans la moindre manipulation. Vous avez des gens qui traînent, qui n'ont pas de travail le plus souvent, qui traînent dans des centres commerciaux ou dans des endroits où ils peuvent se voir, se parler, échanger de la drogue éventuellement ou autre chose, ou
même
échanger de simples propos.
Oui.
Et à un moment, il suffit qu'un incident éclate. Ils prennent position pour une personne issue comme eux de l'immigration, et ça donne une bande de 300, 400 personnes qui se mettent à tout casser, qui lancent des pavés, qui lancent des jardinières. Donc c'est une situation extrêmement grave, et c'est la raison pour laquelle M. Sarkozy, par exemple, ne peut plus aller en banlieue.
Je ne sais pas pourquoi.
Il a peur de déclencher une émeute. Alors, imaginez qu'il le fasse et qu'il y ait une émeute. Il peut dire adieu à la course présidentielle.
Effectivement, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été très suspicieux de l'avant-course à des élections, et pendant, sur tous les éléments, que ce soit une émeute, que ce soit des vols, des recrudescences de violence, j'ai toujours une impression que les grands partis sont capables de tout pour essayer de manipuler l'information sur Eichmann. Ça me donne toujours
Ils sont capables de tout, mais ils ne sont pas
jusqu'à
en général
quel point
capables d'une très grande habileté.
Ah.
Il ne faut pas non plus les surestimer. S'ils le pouvaient, ils le feraient volontiers. Mais c'est
Vous
beaucoup
croyez?
Plus simple qu'ils ne le croient. Et donc, alors, les manipulations politiques ont toujours existé. C'est évident que dans les campagnes électorales, il y en a encore plus que d'habitude. Mais... il y a des choses, si vous voulez, ce qui s'oppose à la thèse de la manipulation, c'est la permanence de ce type d'événement. Parce que si ça n'arrivait qu'au moment de la campagne électorale,
oui.
on dirait, bon, effectivement, c'est une coïncidence plus que troublante, il y a certainement eu manipulation. Mais si ça arrive en permanence et tous les jours, et que la presse n'en parle pas parce qu'elle a les consignes de ne pas en parler, ça veut dire que c'est une situation de fond.
Oui.
Alors il se peut que la campagne électorale attise encore plus ce genre de phénomène, mais... je vous assure qu'on n'a pas besoin d'attiser quoi que ce soit pour que le feu se répande.
Juste pour vous donner un exemple, nous, on a un candidat, ça s'appelle le Québec solitaire. Le Québec solitaire, non, je me trompe, c'est le Québec solidaire. Mais on aime bien l'appeler le Québec solitaire pour démontrer à quel point que c'est très gauchiste. C'est, et on en a un nouveau, je pense, Christian, c'est la République, un instant, comment ça s'appelle exactement? Le PRQ, la République, le Parti République du Québec, c'est un nouveau parti, oui, de gauche, un autre parmi tant d'autres.
Oui.
Et le Québec solitaire, il y a des individus qui ont fait des menaces de mort mais pour faire exploser le véhicule de certains individus. Je ne répéterai pas le prénom et nom, histoire de ne pas non plus me causer d'ennui. Mais vous savez, c'était pendant les élections que ça s'est passé.
Oui, ben, écoutez,
histoire de faire de la peur aux gens, de dire « Hey, votez pas pour tel parti parce que vous savez, il pourrait arriver telle histoire ».
Oui, alors là, c'est une manipulation même à visage découvert, puisqu'ils voilà. disent. Donc, enfin, c'est une façon détestable de faire de la politique, parce que si la politique consiste à s'envoyer des menaces à la figure, alors ça n'est plus de la politique, ça devient un western. Quoi. Et encore dans le western, il y avait des règles. On essayait de respecter.
En cette semaine, où est-ce qu'on débute, bien sûr, dans le fond, c'est pratiquement la semaine sainte. On est vendredi saint.
Elle a commencé aujourd'hui, donc c'est le vendredi saint.
Genre. Avez-vous mangé du chocolat, de la viande, je sais pas.
Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, je ne suis pas fanatique de chocolat, j'aime bien le chocolat, mais mes petits-enfants vont avoir des petits œufs en chocolat certainement à partir de dimanche, car les petits chocolats vont fleurir dans les jardinières, sur les balcons.
Mais vous n'êtes pas du genre à vous en priver parce que c'est la
fin. Non. Bon, de toute façon, je n'obéis pas beaucoup à ce genre de règles, ni à d'autres d'ailleurs. Je suis respectueux de toutes les croyances, mais même si je ne les partage pas toujours d'une manière intime.
Malheureusement, M. Reichmann, moi je ne le suis pas et ça fait de moi un mauvais garçon.
Il n'y a pas de mauvais garçons ou de bons garçons. Les bons garçons ne sont pas ceux qui obéissent aux mêmes règles obligatoirement. Les bons garçons sont des gens honnêtes, scrupuleux, et qui chacun est libre de son point de vue. Le tout, c'est de respecter celui des autres et de ne pas être intolérant. Parce que le pire, c'est ça, c'est l'intolérance qui pourrit la vie. Si vous êtes considéré comme ne pensant pas bien, c'est... En France, nous subissons ça avec la pensée unique, par
oui.
exemple. La personne qui ne passe pas son temps à dire que les immigrés sont forcément des gens très désirés dans la société, qu'ils sont une chance pour la France, si vous ne dites pas ça, vous êtes considéré immédiatement comme un fasciste ou un idéologue nazi, pour un peu, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est une question qu'on peut aborder froidement et sans passion. Mais voilà, la pensée unique, c'est une pensée de caractère totalement intolérant et qui interdit même tout débat. La preuve, c'est que j'ai essayé en France de lancer un débat sur ce thème il y a quelques mois déjà.
Et qu'est-ce que ça a donné ?
Sur deux terrains, si vous voulez. Il y avait un premier terrain qui était celui de la question de savoir si la France a besoin encore d'immigrés. Bon, c'est une question qu'on peut aborder de manière tranquille. Parce que, comme je l'ai dit, et ça commence quand même un petit peu à filtrer, parce que les gens m'ont malgré tout entendu, j'ai dit que la France avait actuellement 62 millions d'habitants exactement, mais qu'il y avait dans le monde 6 milliards de personnes. Donc j'aimerais qu'on me dise, ceux qui sont favorables à l'immigration, ou en tout cas à une immigration qui se poursuivrait au même rythme, qui nous disent à combien on s'arrête. Parce que la France peut-elle accueillir combien de milliards de personnes ? Parce qu'il y a dans le monde, sur les 6 milliards, vous en avez au moins 5 milliards qui ont vocation à émigrer. Il y a 1 milliard environ de citoyens des pays développés qui n'ont pas de raison majeure pour émigrer, sauf pour des raisons de convenance personnelle. Et puis vous avez 5 milliards de personnes qui ont des situations relativement pauvres et qui ont effectivement vocation éventuellement à émigrer. Donc j'aimerais que les responsables français, en tout cas ceux qui prônent une immigration sans contrôle, nous disent combien d'immigrés ils sont prêts à accueillir, mais de manière officielle et visible. Et
contrôlée.
On s'arrête.
Et contrôlée.
Pardon ?
Et contrôlée aussi.
Et contrôlée aussi. Ça, on ne m'a pas répondu. Et j'ai lancé également un deuxième débat qui était initié par une lettre ouverte aux musulmans modérés. Et j'ai demandé aux musulmans modérés, et il y en a, de dire que, enfin, de, de, condamner les violences d'un certain nombre d'entre eux, enfin de musulmans, qui se réclament de l'islam. Parce que nous, s'il y avait des chrétiens qui se mettaient à commettre des actes de violence, ça n'est pas parce que les chrétiens sont majoritaires qu'ils devraient obligatoirement...
Exact.
Les chrétiens qui font des violences ont raison.
Voilà.
Nous les désapprouverions, bien entendu. Et d'ailleurs, nous les désapprouvons. On n'est pas adeptes de la violence.
Toujours.
Je demande exactement la même chose aux musulmans modérés. Mais je n'ai eu aucune réponse.
C'est étrange, ça, hein.
C'est parce qu'ils ont peur. Alors, s'ils ont peur, c'est parce qu'ils sont menacés. Et s'ils sont menacés, c'est qu'il y a des violents qui ne respectent pas les lois de la République.
Comme ici.
Ça devrait donner lieu à un débat, un vrai débat. Et malheureusement, on ne peut pas l'avoir parce qu'on préfère se réfugier derrière des arguments tels que le fascisme, le racisme, la xénophobie, etc. Mais vous savez que ça, c'est une attitude profondément communiste, car la fascisation qui consiste à traiter toute personne qui n'est pas d'accord avec vous de fasciste est une stratégie qui a été initiée par le Comintern. C'était un organisme dépendant de Moscou au temps du début du communisme et ensuite, et surtout pendant que la Deuxième Guerre mondiale se préparait, et même après la Deuxième Guerre mondiale, et ça consistait... C'était une méthode systématique. Dès qu'on était en hostilité ou en désaccord avec les communistes, on était attaqué sur le thème du fascisme.
C'est ça.
Et aujourd'hui, vous retrouvez exactement le même type de comportement avec l'immigration. Quand vous émettez des doutes sur la nécessité pour la France et pour l'Europe d'accueillir un nombre aussi important d'immigrés, on vous traite immédiatement de fasciste.
C'est très étrange, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi.
On n'a rien inventé actuellement. Tout ça, ce sont des méthodes dites de diabolisation et qui ont été parfaitement initiées par le Comintern, par les idéologues communistes.
Effectivement, M. Reichmann, ce fut un plaisir. On doit se quitter, mais on se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir. La semaine prochaine, à la même heure, si vous le voulez bien.
Certainement, ça va me faire plaisir. C'est toujours un plaisir, M. Reichmann, avec un S.
Le plaisir est partagé.
Merci, M. Reichmann. Une très belle journée.
Au revoir.
Passez un bon week-end.
Vous aussi.
Au revoir. Alors c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'écouter, oui, d'une manière religieuse, non, oubliez ça, ce mot-là, je pense qu'on va l'expulser immédiatement, d'une manière appréciée. Alors on bat des culs les 11h52 minutes et les 17h52 minutes, on s'arrête un tout petit instant, à peine une minute, et on revient tout de suite après ceci pour closer l'émission Wake Up et bien sûr Hard Sports.
Un autre moment historique.